With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, pas de programme cette semaine, mais on est de retour après combien 5 semaines d'absence. C'était pas ultra volontaire tout ça, on a fait avec, on a eu des difficultés, on n'avait pas trop les moyens d'enregistrer pendant le mois de novembre, c'est regrettable pour le moins. Moi, je vais pas rentrer dans les détails. Ça a été un mois de novembre compliqué, et puis voilà, il fallait tout faire pour que ça reprenne, et ça reprend, et on sera là en 2020, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut se concentrer sur les bonnes nouvelles, et puis il faut aussi essayer de rattraper un petit peu le programme de ce mois de novembre, qui est un mois, on le sait tous, un mois plutôt important dans le secteur du jeu vidéo. Donc on avait juste l'impression d'être sur les starting blocks avec de la glu sur les chaussures, donc c'était un peu désagréable. On avait envie de parler de Disco Elysium, évidemment, chef-d'œuvre absolu et dont on s'attendait pas du tout, et on avait envie de parler de Death Stranding, on avait envie de parler de plein d'autres choses, on avait envie de parler de la fin de Life is Strange 2. On voulait être devant ce micro. On pourra le faire, on va essayer de rattraper le retard. Il fallait aussi parler de Just Dance, merde. Sauf que, évidemment, au moment où on pouvait reprendre les enregistrements, le mouvement social a commencé. Par ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas, si vous avez le temps, si vous avez envie, d'aller voir cette formidable initiative du Twitch, de la chaîne Twitch du Recon du Stream, qui est une chaîne sur Twitch de jeux vidéo, entre autres, qui en soutien au mouvement de grève qui alimente la caisse de solidarité pour les grévistes. Donc c'est vraiment, moi je m'attendais pas du tout à ce qu'une initiative pareille puisse voir le jour, et j'y vais régulièrement et je suis absolument sous le charme. Pour tout ça, pour dire que la grève continue et qu'il a été difficile, voire impossible pour les chroniqueurs de Silence on Joue d'être dans le studio aujourd'hui. Alors que faire? Sauter encore une semaine? Non. Bien sûr. Après, je me suis posé la question. Faire une émission en solo et faire Disco Elysium, Death Stranding et Life is Strange tout seul, j'ai hésité, mais non. Et en fait, là, je me suis souvenu que j'avais quelque chose en attente. En fait, il s'agit d'une table ronde que j'ai animée le 28 septembre dernier à la BPI, donc la bibliothèque du Centre Pompidou à Paris, dans le cadre du festival Press Start. Donc du coup, c'est ce que je vous propose cette semaine, c'est d'écouter cette table ronde, parce qu'elle était, il y avait une captation et le son est plutôt bon, et puis j'en anime quelques-unes, et celle-là, en fait, à la fin de la table ronde, je me suis dit waouh, c'était intéressant, c'était vraiment quelque chose de où on apprend des choses, et je trouvais que ça s'était vraiment très très bien passé. Et vu que c'est un format qui est assez aléatoire en fonction des participants, en fonction des intervenants, donc c'est pas toujours aussi bien. Donc là, j'ai demandé aux gens de la BPI si je pouvais réutiliser ce son, ils m'ont dit oui, et donc voilà. Avant de présenter un peu plus cet événement, il y en a un parmi les chroniqueurs de Silence on Joue qui n'est pas autour de cette table, puisque je suis tout seul avec Kevin à la réalisation. J'en remercie quand même, au passage, on remercie RMC pour ce studio qui est disponible. Ils sont toujours très, très serviables, et c'est vraiment cool. Mais il y en a un qui est là qui est là avec nous, c'est Jérémy Kletskin pour sa chronique du jeu de société, parce que lui, il me l'a envoyé, sa chronique. Hein. Lui, il ne savait pas à l'avance que les chroniqueurs seraient coincés. Et donc, il m'a envoyé cette chronique et on va quand même l'écouter. Comme ça, ça permettra de remettre un pied dans l'actu du jeu, même si ce n'est pas le jeu vidéo. Salut, Jérémy.
Salut Erwan, oh, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Et moi, j'ai pris conscience. Nous vivons dans un monde où nous sommes sans cesse en train de fuir, de faire notre travail, nos courses, le ménage, torcher les gosses, écouter Silence on joue. Il y a tant de jeux à découvrir, nous nous transformons en machines à jouer. Il faut prendre le temps de respirer, s'apercevoir qu'on est en vie, ne pas oublier le pourquoi, parce que demain peut-être on sera mort. Ou pire, Silence on joue pourrait aussi mourir. C'est pourquoi j'ai pris ma dernière grande résolution de 2019. Merde, j'ai oublié. C'est pas grave. Bon, le jeu de cette semaine, Ishtar, les jardins de Babylone. C'est le jeu étendard de Yellow en ce moment, ils avaient un stand thématisé à Essen. C'est un petit peu le jeu parfait de en ce moment. Ils ont mis le paquet avec les illustrations, le design, le matériel, il est excellemment exécuté. En ce qui concerne la mécanique, elle est assez simple à comprendre, mais il y a plein de petites innovations qui s'imbriquent. Les règles sont absolument abordables, le jeu ne prend pas beaucoup de risques, mais il reste quand même tout à fait surprenant. Et puis les auteurs, Bruno Catala, accompagné d'Evan Singh, que je connais pas en fait, va falloir que je google celui-là. Enfin bon, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'il rejoigne ma collection. Le plateau de jeu modulable représente une grande étendue de sable avec des petites pierres précieuses éparpillées un peu partout. On va y trouver 6 fontaines de valeurs différentes. Les joueurs vont poser des tuiles autour de ces fontaines afin de constituer des jardins. Celles-ci sont composées de 3 zones qui représentent de l'herbe ou des fleurs. Quand on pose une tuile, on récupère les pierres précieuses qu'il y a en dessous, et certaines tuiles vous permettront d'activer des pouvoirs ou de poser un petit jardinier. Comme il ne peut y avoir qu'un seul petit jardinier par parterre de fleurs, et que le nombre de jardiniers est limité, de 2 à 4 en fonction des bonus qu'on aura réussi à débloquer, on va tenter de faire grandir cette zone tout en limitant celle des adversaires. Les jardins devront impérativement être reliés aux fontaines, mais les jardins de 2 fontaines différentes ne devront pas se toucher. C'est donc assez intelligent, il y a des contraintes de pose intéressantes. Les pierres précieuses vous permettront d'un côté de débloquer quelques pouvoirs assez utiles, et de l'autre d'acheter des cartes arbres qui vous rapporteront plein de points, et vous pourrez aussi les planter si vous voulez. Ça vous permettra de gêner les autres ou associer un pouvoir de vous apporter encore quelques petits points. Enfin voilà, Ishtar c'est une valeur sûre de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Go go go, moi j'ai déjà une dizaine de parties dans les pattes et je m'en lasse pas. D'ailleurs, lors de notre dernière partie, c'est mon fils de 8 ans qui a gagné, donc c'est vraiment pour toute la famille. Sur ce, je dois malheureusement vous laisser. Peut-être à bientôt. Bye bye.
Non, pas peut-être. Sûrement à bientôt, sûrement la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il faudra faire le bilan de l'année, il faudra revenir sur le maximum de choses. Et on compte sur toi, Jérémy, pour aussi peut-être faire le bilan de l'année au niveau des jeux de société. Ce serait l'occasion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, c'était le 28 septembre, c'était à l'occasion du festival Press Start de la BPI. Alors si vous ne connaissez pas la BPI, donc c'est la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Et en fait, il faut savoir que depuis 2012, donc la BPI en fait s'intéresse aux cultures pop et en fait ils ont un service que j'aime beaucoup son nom, c'est le service Nouvelle Génération. Et donc il y a 2 espaces dédiés au premier niveau de la bibliothèque et il y a une offre documentaire, il y a une programmation culturelle autour de la bande dessinée, des jeux vidéo, des littératures de genre, des cultures geek et urbaines. Et donc en 2013, ils ont l'idée de créer un festival autour du jeu vidéo Press Start. Et donc selon ce qu'ils disent, c'est l'ambition est de valoriser et de placer au rang de culture légitime le jeu vidéo dans la multitude de ses formes. Et donc en 2019, c'était donc la septième édition de Press Start, et donc le 28 septembre, il y avait ce qu'ils ont appelé le forum du jeu vidéo. Et donc il y avait toute une série de tables rondes. Alors je vous donne les thèmes, c'était jeu vidéo, cinéma et musique. Alors c'était autour du cinéma et du jeu vidéo, hein, donc l'influence du cinéma dans la conception des jeux vidéo, etc. etc. Et donc avec Jean Z, qui est déjà venu plusieurs fois ici parler de jeux vidéo, on a animé une série de tables rondes. Et donc parmi ces tables rondes, il y avait la place des femmes dans le jeu vidéo et le cinéma. Alors, c'est cette table ronde donc, que nous allons écouter. Juste pour préciser, j'ai coupé à la fin de la table ronde les questions du public, qui étaient des questions très, comment dire, masculines. C'était un peu des questions un peu de base. Et alors, les réponses étaient plutôt intéressantes. Et c'est surtout, je les ai surtout coupées pas pour une quelconque censure, mais parce que ça aurait fini par être trop long. Mais elles sont disponibles si vous voulez écouter la séance de questions-réponses. Ça dure 10 minutes, 10, 12 minutes, je crois. Elles sont disponibles sur le site de la BPI. Alors, l'adresse exacte, c'est dans la description de l'émission et sur libération.fr. Donc, pour présenter cette table ronde, autour de la table, à mes côtés, il y avait donc Caroline Fiedler. Caroline Fiedler était une productrice dans le jeu vidéo pendant une dizaine d'années et elle est aussi membre de Women in Games France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était en début 2018 ou fin 2017, on avait reçu deux personnes de Women in Games France pour parler de leur association. Et à côté d'elle, il y avait Fabienne Sylvestre Bertoncini, qui est cofondatrice et coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma. Et juste un dernier petit point, donc c'est pour une question de date, c'était enregistré, je l'ai répété, hein, mais c'est important, le 28 septembre, c'est-à-dire un peu plus d'un mois avant le 3 novembre, date à laquelle Mediapart a révélé l'affaire Adèle Haenel. C'est juste pour dire que voilà, l'actualité des femmes au cinéma a évolué depuis, et si on n'y fait pas référence dans cette table ronde, c'est que ça n'avait pas encore eu lieu. Donc on écoute cette table ronde, donc la place des femmes dans le jeu vidéo et le cinéma à la BPI.
Bonjour, donc nous allons aborder une question, oui, comme l'a dit Nathanaël, une question d'actualité, enfin qui est d'actualité depuis longtemps mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est à une place vraiment, vraiment assez, assez importante dans les discussions. C'est donc la place des femmes dans le jeu vidéo et dans le cinéma, avec cette question même combat, mais la réponse, on n'est pas là pour donner la réponse, il n'y a pas de suspense. Pour en parler, donc, j'ai donc le plaisir d'accueillir Caroline Fiedler, qui est productrice, qui a été productrice pendant 10 ans dans le jeu vidéo et qui continue à travailler dans le management, dans l'organisation, et qui est membre de l'association Women in Games France. Bonjour Caroline. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cette association Women in Games France,
Oui, tout à fait. Bonjour. Du coup, l'association Women in Games, c'est une association française qui sert de tremplin pour justement favoriser la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Elle a été créée en 2017 et on sert de tremplin pour donner des profils de femmes professionnelles qui travaillent dans le jeu vidéo. Et on donne aussi des clés pour tout ce qui est formation sur la prise de parole, pour aider les jeunes femmes qui décident de travailler dans le jeu vidéo, pour justement avoir une plateforme, savoir comment s'en sortir et pouvoir avoir un métier dans l'industrie vidéoludique.
Et vous avez un site très actif, le site de Women in Games France, où notamment il y a des vidéos Ask Me Anything, donc où des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo répondent à n'importe quelle question des internautes. Les vidéos restent après en ligne. Toujours très intéressant d'avoir comme ça ce genre de support, d'expérience, de relais d'expérience.
Exactement. Donc en fait, on a fait des Ask Me Anything sessions en ligne sur nos Twitch aussi. Et donc du coup, ça permet de voir des femmes professionnelles dans le jeu vidéo, ce qu'elles font, où elles en sont, comment elles ont commencé à travailler dans l'industrie. Et on a aussi des profils. On a plus de 1500 membres dans l'association à l'heure actuelle. Et on a nos profils de chaque femme et leur spécialité dans l'industrie du jeu vidéo par rapport à leur métier sur le site de l'association Women in Games.
À côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Sylvestre. Donc, vous êtes cofondatrice et coordinatrice de l'association Le Lab Femmes de Cinéma. Pareil, est-ce que vous pourriez présenter cette association ? Comment elle est déjà, elle a vu le jour ?
Bonjour tout le monde. Alors, le Lab Femmes de Cinéma, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que c'est une émanation d'un festival de cinéma. Moi, je suis une des cofondatrices du Festival des Arcs, qui est un festival de cinéma indépendant européen. Cette année, on va fêter notre 11e édition. Et moi, je me suis toujours quand même intéressée dans mes différentes vies, parce que j'ai travaillé avant dans d'autres secteurs, dans la politique et puis après dans l'industrie, à ce sujet de la place des femmes. Et au bout de 2-3 ans, j'ai quand même commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec nos sélections officielles ? On se rendait compte, bon, on a toujours 10 films en compétition officielle, et en fait, on avait en moyenne 2 ou 3 films seulement réalisés par des femmes. On a Bon, voilà, sur le moment, ça a été une surprise. Assez vite, on s'est dit, bah, c'est normal qu'il n'y en ait que deux ou trois, parce que ça correspond à une production. Donc, dans la mesure où il y a très peu de films produits par des femmes, réalisés par des femmes, c'est normal que dans un festival qui est une vitrine, finalement, il n'y en ait pas davantage. Et puis, en creusant un peu plus, on s'est dit, on va quand même essayer d'aller voir. En fait, on a commencé à se sensibiliser à la question. Donc, une année, au lieu de faire un focus sur un pays, on s'est dit, on va faire un focus sur des réalisatrices européennes. Donc, on en a invité 10. Et là, surprise ou pas surprise, en tout cas, on a trouvé 10 femmes incroyables qui avaient fait des films qui étaient superbes venant de toute l'Europe. Et cette année-là, on s'est aussi dit, on monte leurs films, mais en même temps, on va faire tous les matins des ateliers où on va libérer la parole. Donc ça, c'était avant l'affaire Weinstein. J'arrive au lab. Hein. Je suis pas je suis au milieu de la forêt, mais j'arrive. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire. Bref, cette édition s'est terminée et on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Donc c'est là qu'on a décidé de créer le Lab. Donc pour finir, le Lab a été créé en 2017. Donc c'est notre deuxième année pleine d'exercices. On a trois piliers, si je puis dire. Le premier, c'est qu'on organise des masterclass. Où en fait, on met en avant le travail de femmes réalisatrices avec un côté un peu rôle modèle, de montrer que voilà, il y a des femmes qui ont fait carrière, qui vont se positionner. On va aller challenger là-dessus. Est-ce que ça a été plus dur parce que vous étiez une femme ou pas? Beaucoup disent bah non, en fait, ça n'a pas été plus dur et c'est très intéressant de les entendre aussi. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers sur la place des femmes, toujours. Donc là, on réunit des gens de toute la chaîne du cinéma, femmes, hommes, et c'est vraiment en mode think tank et intelligence collective. Et l'idée, c'est que de ces ateliers naît une sensibilisation et naissent aussi des idées, ensuite, qu'on va porter jusqu'au pouvoir public. La dernière chose qu'on fait, c'est qu'on publie chaque année une étude annuelle sur la place des femmes dans le cinéma au niveau européen. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est les trois piliers du Lab.
Oui, c'est parce que vous allez nous parler des chiffres donc, de la dernière étude donc, sur la place des femmes dans le cinéma. Entre le jeu vidéo et le cinéma, on a déjà parlé, il y a déjà eu une table ronde sur les points communs, les différents systèmes de représentation. Ces deux médias visuels, ces deux médias qui nécessitent à chaque fois des grosses productions, c'est-à-dire que c'est des arts des arts de la production. Enfin, il y a des besoins d'équipe, il y a besoin de financement. C'est pour ça qu'il y a quand même des points communs très forts entre le jeu vidéo et le cinéma. Et donc, j'avais envie de séparer un peu cette discussion sur deux points, c'est qu'est-ce qui se passe du côté de la production, qu'est-ce qui se passe du côté de la place des femmes dans la production de ces œuvres, que ce soit dans le jeu vidéo et le cinéma, et ensuite qu'est-ce qui se passe dans la représentation, une fois les œuvres produites, la représentation des femmes dans les jeux vidéo et dans les films. On va commencer parce qu'il y a eu de l'actualité, il y a eu ces dernières années beaucoup de choses qui ont bougé, on a beaucoup parlé de ces sujets-là, mais est-ce que vous avez constaté, remarqué ou pas d'ailleurs, une évolution de la place des femmes dans la création, que ce soit dans ces dernières années, cette dernière décennie pour être large, que ce soit donc dans le cinéma ou dans le jeu vidéo? On va peut-être commencer par le cinéma, par vous Fabienne.
Alors, c'est en effet, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui se passe derrière la caméra, c'est ce que vous dites, et ce qui se passe devant. Donc derrière, c'est quel regard va être porté sur un film, sur ces personnages, et ce qui se passe devant, c'est justement quels vont être les personnages. Côté cinéma, il y a quand même eu l'affaire Weinstein qui a été une déflagration. Me Too. En France, balance ton porc. Alors, médiatiquement, je pense qu'il n'y a plus un seul festival. Il n'y a plus. Enfin, en fait, le sujet a complètement émergé à tout niveau. Les actrices parlent des difficultés qu'elles rencontrent, des différences salariales. Les réalisatrices, maintenant, on sait qu'il y a ce gros problème d'inégalité, en fait, de nombre. C'est peut-être là où je vais quand même dire deux, trois mots sur les chiffres. Alors, j'aime pas du tout les chiffres, donc je vais pas vous noyer. Ce que je dis toujours, et en fait, qui bouge pas d'une année sur l'autre, c'est que, en gros, dans les écoles de cinéma, il y a une personne sur deux est une fille. Au moment du premier court-métrage, on passe à une sur trois. Au moment du premier et deuxième long, c'est une sur quatre. Et au moment du cinquième long et plus, c'est une sur cinq. Donc vous voyez, en fait, on a un décrochage comme ça. Alors nous, c'est donc la cinquième année qu'on fait cette étude européenne sur la place des réalisatrices. Alors en fait, en gros, au niveau européen, cette année, donc en 2019, donc c'est les chiffres de 2018, on est en moyenne européenne à 19% de réalisatrices européennes. Alors l'année dernière, on était à 20%, et sur la période 2012-2018, on était à, en fait, on était un peu au-dessus de 19%. Donc ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, cette année, on est à petit 24. En fait, on est à 23,9. L'année dernière, on était à 25. Et sur la moyenne 2012-2018, et ce sera mon dernier chiffre, on était un peu au-dessus. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est quand même vraiment cruel, hein, les statistiques. C'est-à-dire qu'on est en moyenne européenne, en gros, à une réalisatrice sur cinq, toutes générations confondues. Au niveau français, donc c'est plutôt une sur quatre. Et surtout que, en fait, les chiffres sont moins bons cette année par rapport à l'année dernière et moins bons cette année par rapport à la période 2012-2018. Donc, en fait, on avait l'impression l'année dernière qu'on était quand même plutôt sur un trend un peu positif. Et cette année, notre étude, elle nous coupe les jambes parce qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout installé. Donc, du coup, juste, je termine là-dessus. Ce qui a changé, c'est que, en effet, le sujet des inégalités est complètement sur la table, il a émergé. Tant et si bien que maintenant, quand on parle du sujet, et je suis quand même contente qu'il y ait du monde dans la salle, parce que tout le monde commence à en avoir un peu marre du sujet de la place des femmes. On est là, ah, ça va, tu nous en as déjà assez parlé. Mais en vrai, les statistiques ne bougent pas. Donc le sujet, bah, tant que ça ne bougera pas, désolé, mais on reviendra.
Il y a un côté un peu déprimant. Enfin, on a 2017, donc il y a eu l'affaire Weinstein. MeToo, c'est un hashtag lancé par une actrice. Donc on voit bien que le cinéma était au cœur de ce mouvement pour dénoncer le harcèlement, dénoncer d'une manière générale voilà, cette inégalité permanente. Et le cinéma était au cœur de ce questionnement-là. Donc on a l'impression qu'il ne s'agit finalement que d'une question... d'un questionnement de façade et que finalement tous les rouages de prise de décision qui aboutissent finalement aux films dirigés par les femmes, ça ne change pas.
Alors bon, il y a quand même des choses qui sont donc dans notre étude, on a un aspect quantitatif qui cette année est vraiment pas rassurant. On a aussi toute une étude qualitative où on suit pays par pays les mesures qui sont prises. Et honnêtement, on se rend compte que à l'échelle européenne, il y a quand même de plus en plus de pays qui se mettent à réfléchir et à prendre des mesures. Alors on espère que du coup, enfin. Moi, j'ose espérer, je reste optimiste sur le fait qu'à un moment, ça va bouger. Vous avez des mouvements en France, par exemple, comme le collectif 50-50 qui a organisé la fameuse marche, la montée des marches à Cannes l'année dernière, le Lab est partenaire hein, du collectif, on travaille main dans la main. Donc c'est la deuxième année qu'il va y avoir des assises sur l'égalité dans le cinéma, là au mois de ça devait être octobre, je crois que ce sera novembre finalement, l'année dernière aux premières assises, il y a quand même une mesure financière extrêmement précise qui a été prise et moi je crois que quand même c'est des mesures incitatives comme ça qui peuvent faire changer les choses. Donc à la fois, pour le moment, les statistiques résistent. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être très long, parce qu'en plus, c'est multifactoriel. Et là, on passera à la deuxième partie, mais avant, ce serait intéressant de vous entendre. Mais sur, dans le multifactoriel, il y a qu'est-ce qui se passe devant la caméra, et du coup, quels sont les stéréotypes qu'on véhicule, et qu'est-ce qui fait que les filles, comme ça, décrochent. Alors, il y a une partie qu'elles subissent, mais il y a une partie où c'est quand même très questionnant, quoi.
Alors, dans le jeu vidéo, maintenant, donc le cinéma a été un peu au cœur de MeToo et du scandale Weinstein. Ça, c'était 2017. En 2014, le jeu vidéo a connu le Gamergate, qui a été donc une grande campagne de harcèlement de créatrices de jeux vidéo. Précédemment, en 2012, il y a eu une grande campagne de harcèlement contre, là, plus une créatrice, pas de jeu, mais d'une médiatrice, Anita Sarkeesian, qui avait fait un financement participatif pour un projet contre les clichés dans le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo a connu aussi ces événements un peu marquants autour de la représentation, autour de la place des femmes dans l'industrie. Est-ce que là aussi, vous avez l'impression que... Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que ça stagne de la même manière dans le jeu vidéo? Est-ce que déjà on le sait?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, les femmes dans le jeu vidéo restent une minorité. Quand on regarde les chiffres, on reste quand même à 15% de femmes représentées dans les métiers du jeu vidéo en termes de développement, donc dans les studios de développement, contre par exemple 50% de femmes représentées dans tout ce qui est éditorial, marketing, RH. Donc déjà, on voit une disparité complète par rapport aux différents types de métiers. Quand je regarde par rapport à ce qui se passe notamment de nos jours dans les médias, par rapport à ce que les studios de développement et ce que les éditeurs mettent en place pour mettre en avant et promouvoir les femmes qui travaillent dans leur entreprise, il y a de plus en plus de choses qui se font. Et ça fait quelques années maintenant que je ne travaille plus dans le jeu vidéo et c'est vrai que j'avais une disparité qui était moins présente. C'était plus égalitaire en termes de représentation moitié-moitié. Et maintenant, je vois plus de femmes dans le développement, mais ça manque quand même énormément, notamment sur les métiers de type programmation ou game design. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, parce que j'ai recherché un petit peu ce qui se passe notamment cette année, avec Ubisoft qui commence à faire des choses, et je trouve ça bien parce que c'est un éditeur qui a de l'argent, mais qui a aussi une visibilité assez éloquente sur l'industrie. Donc il commence à mettre en place des pages en ligne qui s'appellent Women of Ubisoft pour mettre en avant les femmes qui travaillent dans les studios chez Ubisoft. Donc ça c'est intéressant parce que ça donne des rôles modèles aux filles qui veulent travailler dans le jeu vidéo, qui ne savent pas forcément par où commencer et qui étaient avant sous-représentées. Et après il y a aussi des formats de mentoring qui sont mis en place dans l'industrie. Ubisoft encore qui a lancé un programme de mentorship pour trouver des programmeuses et des game designeuses, donc c'est sous forme de recrutement hein, bien entendu, mais c'est intéressant parce que du coup ça aide à promouvoir les femmes à prendre la... J'ai du mal à trouver mes mots parce que ça fait longtemps que je ne vis plus en France, mais pour prendre justement les choses en main plus. Et après on a des choses du style la Game Developers Conference qui est une conférence qui se passe chaque année en juin aux États-Unis à San Francisco. C'est un des événements les plus grands de toute l'industrie. Et justement, il y a des programmes de mentorship qui sont également mis en place pour les femmes dans le jeu vidéo pour trouver des mentors. Parce que c'est un des aspects assez difficiles dans l'industrie. On trouve très peu de femmes dans les métiers de leadership parce que justement, les femmes ont du mal à se mettre en valeur, je pense. Mais aussi parce qu'il y a moins d'hommes qui ont tendance à mentorer des femmes. Et donc du coup, trouver des femmes pour mentorer des femmes, c'est une première approche. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des programmes de mentorship d'hommes pour mentorer de femmes aussi.
Il y a sur ces dernières années, alors je me trompe peut-être d'une part parce que je vois les choses par un prisme masculin, mais... On a eu l'impression que ce qui s'est déroulé, ce qui a été un enjeu des dernières années, notamment depuis MeToo ou depuis le Gamergate, c'est qu'il y a eu cette question de la libération de la parole. D'une parole qui, avant, n'était pas forcément possible, n'était pas forcément déjà entendue, elle n'était pas forcément émise non plus, et que ces mouvements-là ont permis de crédibiliser, de rendre possible cette parole des femmes qui travaillent dans le cinéma ou des femmes qui travaillent dans le jeu vidéo. Et en même temps, quand vous avez commencé à parler des femmes dans le cinéma, vous avez dit « Ah oui, mais ça se trouve, on en parle trop » ou il y a des gens qui trouvent que ce sujet revient trop sur la table. Est-ce qu'on n'est pas, intuitivement, on n'est pas en train de se dire « Bah, y avait cette fenêtre 2017-2019 et puis et le problème est résolu » ou est-ce que cette libération de la parole, elle peut encore continuer aujourd'hui ?
Et donc, je suis censée répondre à ça.
Mais est-ce qu'elle est réelle encore aujourd'hui ?
Alors, oui. Moi, je crois que les femmes prennent la parole. Enfin, encore une fois, il n'y a plus. Enfin, nous, on le voit au niveau du cinéma. Il n'y a vraiment pas un événement professionnel sans que le sujet donne lieu à une conférence, sans que le sujet donne lieu à une prise de parole qui soit plus ou moins prévue d'ailleurs, hein, de la part d'une actrice, de la part. Là, je voyais au sommet des exploitants qui est un grand. grand rendez-vous annuel du cinéma, il y avait une table ronde là-dessus. Donc le TIFF, le Festival de Toronto, bon, en plus la directrice artistique est une femme. Là, elle vient d'envoyer un long email à tous les gens qui étaient au TIFF en disant bon, maintenant vous pouvez carrément soutenir financièrement les actions qu'on fait pour aider les femmes, parce que il y a un moment où en fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le nerf de la guerre pour moi, c'est déjà d'avoir des statistiques. C'est-à-dire que tant que les statistiques seront aussi catastrophiques, en fait, la parole, on sera toujours légitime à la prendre. C'est-à-dire que moi, quand on me dit « Ah, ça va, on vous a déjà assez entendu sur le sujet », je leur dis « Ouais, mais regarde, en vrai, les chiffres, ils bougent pas, voire ils descendent. Donc, en fait, non, on va continuer à en parler jusqu'à ce que ça bouge vraiment. » Après, pour que ça bouge vraiment, il faut en parler, mais il faut aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut prendre toute la chaîne. Et ça part de la petite école, en fait, parce que c'est multifactoriel, ces sujets de place des femmes dans le cinéma et dans la société. Moi, je pense que dans le cinéma, c'est un sujet qui est... Qui est particulièrement intéressant, non pas parce que c'est le domaine dans lequel je travaille, mais parce que je crois que le cinéma donne à croire, à voir, à croire. C'est Gina Davis qui a un institut aux États-Unis qui s'appelle Because You Can See It, You Can Be It. Donc il y a quand même une force de projection qui est tout à fait importante à montrer. Après, je suis contente parce que j'ai ma petite fille qui est là au premier rang. Moi, je crois que en fait, c'est dès l'école. Bon, je l'ai forcée à venir hein, par ailleurs, mais je crois que c'est vraiment dès la petite école qu'il faut parler aux filles et aux garçons aussi du fait que en fait bah, y a une égalité et que les filles en fait il faut donner, enfin il y a un rapport à l'estime, enfin et c'est des choses qu'on fait bien inconsciemment. Moi en tant que maman, je suis persuadée que j'ai pas parlé de la même manière à mes filles et à mon fils, enfin donc tout ça c'est quand même ça va prendre du temps, ça va demander déjà de la, pour moi la première chose c'est qu'on soit sensibilisé au fait que il y ait des inégalités, et parce qu'en fait beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'il y a ce problème, parce qu'on a tellement vécu dans un patriarcat très tranquille, que, enfin, je veux dire, non conscient que en fait les choses se passaient comme ça et c'était ok. En fait, il y a un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Et après, il faut que du plus jeune âge jusqu'aux réalisatrices, jusqu'à tous les niveaux. Enfin, je reviens quand même juste sur encore un chiffre. C'est des tendances. C'est-à-dire qu'en gros, donc les femmes. On est juste maximum une sur cinq, une sur quatre comme réalisatrice. Mais en gros, en fait, vous avez plus de chances d'en trouver dans le documentaire que dans la fiction, et encore plus de chances d'en trouver dans les documentaires pas chers que dans les fictions qui sont forcément plus chères. C'est-à-dire que, en fait, plus c'est cher, moins il y a de femmes. Moins c'est cher et plus il va y en avoir. Donc ça aussi, c'est aussi un rapport à l'argent, c'est aussi un rapport... Alors, c'est vrai que j'aime pas trop utiliser d'anglicisme, mais c'est aussi un rapport à l'empowerment et au fait que, à un moment, ça va être long parce que c'est de la petite enfance jusqu'au rapport à l'argent. Est-ce qu'on le demande bien? Est-ce qu'on en demande assez? Est-ce que... Voilà. Mais ça bouge quand même. Il y a des femmes qui n'ont aucun problème avec ça, mais elles sont peu nombreuses, quoi.
Est-ce que dans les festivals, dans les conventions, dans les rassemblements du jeu vidéo, le jeu vidéo en connaît aussi beaucoup, que ce soit des rassemblements professionnels, des rassemblements grand public, est-ce que cette question revient sur le devant de la scène, comme elle peut le faire dans le cinéma ?
Complètement. Alors, c'est intéressant ce que disait Fabienne aussi, parce que c'est vrai que nous, par exemple, dans les festivals de jeux vidéo ou dans les conférences, les femmes sont souvent invitées pour parler sur des sujets. Donc ça, c'est un bon point. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que les femmes sont invitées pour parler sur des sujets dont on est en train de parler aujourd'hui, des femmes, dans le jeu vidéo. Et pas sur des sujets spécifiques, par exemple liés au game design ou à la programmation, où les hommes vont être plus davantage représentés et invités à parler sur le sujet. Donc c'est intéressant à ce moment-là, et c'est ce qu'on fait avec l'association Women in Games France, de mettre en place des profils qui sont accessibles à tout le monde sur le site. Et on a aussi une petite entreprise de Nana dans l'association qui aide justement à mettre en lien chaque organisation pour trouver justement des profils qui correspondent pour faire parler les femmes de façon professionnelle par rapport aux jeux vidéo. Donc ça, c'est la deuxième approche qui pourrait être bien de développer sur le long terme.
Il y a, pour finir sur l'aspect production, ce qui se passe derrière un peu dans les systèmes de production, vous l'avez dit, ça avance, mais c'est lent. Quels sont les points de blocage majeurs? Qu'est-ce qui ralentit le mouvement? Outre la réponse classique, le patriarcat, évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses identifiées, des points de blocage, des points de freinage comme ça identifiés?
Alors, je vais contourner la question. Je pense qu'il y a des... plutôt que de parler de ce qui ralentit, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qui peut accélérer. Ce qui peut accélérer, me semble-t-il, c'est quand même malheureusement... alors, en fait, il y a tout un éventail de mesures possibles qui vont des mesures incitatives jusqu'aux mesures coercitives. Et en passant par les bonus financiers, les quotas. Donc, ce qui est intéressant dans l'étude qu'on mène... Alors, en fait, cette étude... Donc, nous, on a un site qui s'appelle lelabfemmedecinema.org. Vous avez toutes les études des années précédentes qui sont déjà en ligne. Celle de 2019, on est en train de la finaliser. Donc, elle sera mise en ligne au moment des assises. Donc, je pense que ce sera début novembre. Et à l'intérieur de cette étude, on a fait un tableau pour récapituler tout le spectre, en fait, de mesures possible. Et pays par pays, on voit ce qui marche et on voit ce qui ne marche pas. On voit par exemple que... alors après, c'est aussi à coupler avec des phénomènes culturels. Vous voyez, par exemple, en gros, les pays qui sont en tête de file aujourd'hui en Europe, c'est les pays du nord de l'Europe. C'est la Suède, c'est la Norvège, par exemple. Clairement, sur la période 2012-2018. Au-delà même, enfin, j'y viendrai après, des mesures qu'ils ont prises dans ces pays-là. Les pays qui sont complètement à la traîne, c'est l'Italie, ça va être la Turquie. On a la Grande-Bretagne aussi, c'est pas le Sud, mais ils sont aussi bien dans les choux, si je puis dire. Et en gros, donc, il y a les phénomènes culturels, et puis après, il y a les mesures. Par exemple, la Suède... Donc, qui est en gros sur la période longue 2012-2018, c'est vraiment le premier pays. Enfin, ils sont en moyenne un bon 30% installés, qui est pas non plus complètement. Enfin, je veux dire, pas de quoi crier. Enfin, oui,
c'est pas l'objectif.
Chanter, alléluia. Hein, l'idée, ce serait d'aller même au-delà, mais quand même 30%. Déjà, on se dit super. Et ben eux, par exemple, quand il y a une femme qui a été nommée directrice de l'Institut suédois du film, qui est arrivée, elle a dit « on va pas faire des quotas, on va faire des soft quotas ». C'est-à-dire qu'on va se laisser 3 ans avec des incitations financières, et au bout de 3 ans, si on n'est pas passé à 40%, à ce moment-là, on passera au vrai quota. Et alors là... l'aiguille a fait un jump pas possible. La mesure qui a été prise l'année dernière en France, pour le moment, on n'a pas encore le recul sur cette mesure, parce qu'en fait, elle est rentrée en vigueur début janvier 2019. Et en gros, c'est une incitation financière. Le CNC donnera un bonus financier à tous les films dont les équipes seront paritaires. Moi, je crois qu'à partir du moment où vous avez de l'incitation financière, ça devrait commencer. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas de voir qu'est-ce qui nous empêche, mais plus de voir comment on peut accélérer. Les quotas, on n'est jamais très contente, hein, en tant que femme, de penser qu'on va avoir une place plus importante parce que grâce à des quotas. Mais bon, en politique, on le voit bien en France, c'est quand même un moment passé par là peut aussi accélérer de toute façon les choses, quoi. Donc et voilà. Et après, le spectre de mesures possibles est quand même assez large. Et à explorer, en tout cas.
On n'a pas l'impression que dans le jeu vidéo, il y a cette logique-là d'incitation, de pousser les femmes à aller créer leur jeu en tant que réalisatrice, que game designer, à avoir des postes de responsabilité, avoir leur nom sur la jaquette, entre guillemets. C'est pas quelque chose, il n'y a pas encore ce mouvement-là qui est enclenché dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel un but à atteindre, un moyen en tout cas?
Oui, je pense que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cinéma dont le jeu vidéo, en termes d'industrie, peut apprendre et peut mettre en exergue pour justement avancer plus loin. Mais après, tu parlais tout à l'heure de la libération de la parole et je pense que ça commence aussi à ce moment-là. Quand j'en discute avec mes collaborateurs développeurs dans les équipes de jeux vidéo, Ils me disent tous qu'ils préfèrent travailler avec des équipes qui soient d'une façon pluridisciplinaire, parce que dans le jeu vidéo, on doit travailler avec des gens d'horizons différents, et ça marche mieux. Mais aussi qu'ils soient mixtes, ça marche mieux pour eux. Et c'est vrai que plus on a des articles qui sont dans les médias, et plus on en parle, et plus la parole se libère, et plus il y a ce débat qui commence à se délier, en fait, dans les tranchées. Donc ça, c'est un bon point. Mais après, derrière, c'est vrai que il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en avant pour promouvoir les femmes dans le jeu vidéo. Et c'est ce que des associations comme Women in Games ou les programmes de mentorship à la GDC essayent d'aider dans ce milieu-là. Et après, il me semble qu'en Suède, tu en parlais tout à l'heure, Fabienne, il y a des choses qui se passent de ce point de vue-là pour vraiment axer plus d'embauches par rapport à la diversité. Et ça se passe également aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais en France, on est un peu sur la touche de ce côté-là. Donc il y a plein de choses à prendre de ces pays-là et à mettre en avant.
Je peux poser une question, Caroline? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la part de femmes pratiquantes, enfin, je ne sais pas comment on dit, joueuses. Enfin, vous la mesurez
À l'heure actuelle, il y avait une étude du syndicat national du jeu vidéo il y a 2 ans, il me semble, qui avait donné le chiffre qu'à l'heure d'aujourd'hui, 1 joueur sur 2 est une femme. Et il y a 10 ans, c'était complètement différent. Donc maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ta question, c'est justement de voir que les éditeurs et les studios créateurs de jeux vidéo commencent à se poser la question de comment aborder des jeux qui correspondent plus à ce type de profil. Et quand on regarde l'évolution des jeux vidéo par rapport aux années 80 et à maintenant, ça a pas mal évolué. Dans les années 80, on avait des jeux vidéo avec des rôles très typé, très genré. Ça a commencé avec les jeux du style Mario, où justement tu avais cette espèce de héros sauveur de la princesse, la fille en détresse. Et après, dans les années 90, les personnages se sont développés pour un public plus adulte. Et c'était un public aussi masculin, avec des rôles un peu plus orientés mec qui bourrine avec des armes, homme militarisé. Et vers les années 2000-2010, on a commencé à avoir des personnages féminins, souvent secondaires, qu'il fallait aider. Mais maintenant, on commence à avoir des productions du style Horizon, de chez Guerrilla, qui met en avant Aloy, donc un personnage féminin. Et c'est ce genre de personnage qui serait intéressant d'amener de façon plus en avant. Il y a d'autres jeux, donc notamment Life is Strange, avec leur premier opus qui avait aussi mis en avant un personnage féminin. Il y a plein de choses comme ça qui, justement, pourraient se développer de façon plus en amont. Maintenant, la question qui se pose, c'est en termes de rendement. Ce genre de jeu n'a pas forcément les rendements attendus. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est par rapport à un choix de personnage? Est-ce que c'est par rapport à la production? Et ce genre de choses mériterait d'être mesuré, justement, de façon plus détaillée.
Parce que ça, pour le coup, dans le cinéma, alors j'ai pas le chiffre exact, mais ce qu'on entend revenir tout le temps, c'est qu'en fait, il y a plus en salle de spectatrices que de spectateurs. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez stupéfiant de voir cette espèce de décalage entre qui regarde, qui va être derrière la caméra, quel rôle on va donner aux femmes. Et en fait, ce truc est complètement bizarre, quoi.
Et on passe de toute façon, du coup, très naturellement à tout le questionnement de la représentation qui est c'est lié. C'est-à-dire que pour avoir une représentation des femmes à l'écran, il faut peut-être aussi, je ne sais pas si c'est mécaniquement lié, mais il faut aussi se poser la question de qui fait les films pour représenter les femmes. Mais on a vu, voilà, on dit que cette question a évolué ces dernières années. Je voulais juste faire une aparté parce qu'il y a, ce test dont on parle, qui est le test de Bechdel, qui n'est pas du tout un test pour savoir si un film est féministe, mais c'est un film qui parle de quelle représentation pour les femmes dans une œuvre audiovisuelle.
Mais... Je peux me permettre juste de demander combien de personnes savent ce qu'est le test de Bechdel dans la salle? Ouais, c'est quand même pas. Il y a quand même un peu. Mais donc du coup, on peut quand même dire ce que c'est pour
on
les
va
autres.
Dire, je te laisse présenter le test.
Oui, alors c'est très simple. C'est un test qui a été créé par une créatrice de bande dessinée et qui est quand même assez flippant, hein, parce que le principe, c'est il y a trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a deux personnages féminins. La deuxième question, c'est est-ce que les deux personnages féminins ont tous les deux un prénom. Et la troisième question, c'est est-ce que ces deux personnages féminins ayant tous les deux un prénom vont se parler d'autre chose que d'un homme. Et en fait, les études, enfin, alors il y a quelques instituts qui s'intéressent, alors y compris des instituts du film, hein, des équivalents de CNC dans certains pays, en fait, suivent cet indicateur. Et en fait, on se rend compte que souvent, c'est même pas un film sur deux en fait qui le passe ce test. Donc c'est quand même un peu. Peu navrant, quoi.
C'est-à-dire que si on fait le truc négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans un film sur deux personnages féminins qui parlent entre elles d'autre chose que d'un homme. Il faut se rendre compte de ce qu'il n'y a pas. C'est une ligne de dialogue entre deux personnages féminins qui ne parlent pas d'un homme. Quand dit comme ça, on a juste l'impression d'être au Moyen-Âge. Enfin, où il n'y avait pas de cinéma, mais ce n'était pas la question.
Mais ce qui est intéressant sur ce sujet, je pense que tu en sais plus que moi sur le sujet, mais de ce que j'avais vu en me renseignant là-dessus, c'est que dans les années 60, à priori, ou 65, il y avait plus de rôles féminins qui étaient mis en avant, qui avaient plus de rôles prominents. Et ça, cette tendance est complètement inversée jusqu'à maintenant. Et je me demande justement pourquoi, parce que c'est intéressant justement de creuser là-dessus. Quelle a été la chose qui a amené qu'il y ait un switch, en fait ?
Alors là-dessus, honnêtement, j'ai pas du tout connaissance de cette évolution-là. Moi, j'ai quand même aussi le sentiment. Alors, on peut quand même aussi dire que parfois, il suffit d'un personnage féminin hyper hyper fort pour que, en fait, les filles passent pas pour des cruches. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a aussi, parce que là, on en revient finalement au male gaze, qui est aussi un autre concept. Alors, c'est pareil. Il y a combien de personnes qui savent ce qu'est le male gaze ? J'adore savoir à qui on parle, en fait. Ouais, le male gaze. Non, alors là, il y a quand même moins de monde. Alors, tu veux y aller ?
Non, vas-y, vas-y.
Ah ben oui, non, je laisse. Moi, je suis.
Alors, le male gaze, en gros, c'est un terme anglais, n'est-ce pas ? Et en gros, c'est une critique cinéma anglaise qui a créé ce terme-là dans les années 70. Et c'était pour dire que, en gros, beaucoup de fiction finalement passe au travers du regard d'un homme hétérosexuel. C'est-à-dire que finalement, les personnages féminins vont être présentés et mis en avant au travers de ce que pour un homme hétérosexuel, ce qui va lui plaire à lui. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, le male gaze, parce qu'au départ, c'était de dire, en gros, il y a trois regards. Il y a le regard de la caméra vers le personnage. Ensuite, il y a le regard des personnages entre eux. Et puis, il y a le regard du public vers les personnages. Et en gros, le male gaze, c'est quand il y a un décalage entre, finalement, ce que le public aimerait voir et ce qu'on donne à voir. Et en gros, tout ça, ça passe par une prédominance, en fait, du regard masculin sur les sujets et qui objectivise donc... souvent la femme, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, sur une production chez Guerrilla Games comme Horizon Zero Dawn, ils ont pas mal eu de discussions sur les débuts de Eloy en tant que personnage féminin qui était l'héroïne principale. Au début, elle était plutôt jolie, un peu à la Lara Croft dans Tomb Raider. Et il y a eu un gros débat parce qu'on chez Guerrilla Games, on a des personnes donc qui sont masculines et puis féminines et puis qui sont aussi non-binaires. Et donc il y a eu un grand débat là-dessus par rapport aux formes de son corps, par rapport à la représentation de son visage. Et ils ont essayé de la représenter de façon un peu plus androgyne et moins sexualisée du style bimbo pour la représenter de façon plus réaliste, pour que les gens sachent puisse s'identifier à elle plus facilement et aussi que elle soit adressée de façon plus robuste en fait et moins en détresse dont on a l'habitude. Et ça, c'est intéressant justement d'avoir ce genre de débat sur la création de façon interne sur les productions cinématographiques et vidéoludiques.
Pour donner peut-être des exemples un peu concrets sur le male gaze, il y a eu une grosse polémique récente à Cannes sur le dernier film de Tarantino. Voilà, Once Upon a Time, où en gros il y a un seul personnage féminin qui est absolument charmante et qui en plus est un personnage qui a été vraiment inspiré par une femme qui a existé, qui a été assassinée dans des conditions épouvantables, qui était la femme de Polanski. Et pour finir, dans le film, elle est là, sexy en diable et minaudant et disant trois phrases dans tout le film. Quoi. Donc ça, c'est vraiment du male gaze. À l'inverse, Cannes aussi, il y a le film de Céline Sciamma, pour le coup, Portrait d'une jeune fille en feu, qui est en ce moment sur les écrans, je vous recommande d'ailleurs. Céline Sciamma étant quand même une des filles qui est une des réalisatrices les plus en pointe du collectif 50-50, donc qui prend aussi vraiment une place importante sur le côté opinion et défense d'idées. Là, pour le coup, je veux pas spoiler, mais en gros, c'est pas le male gaze. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il y en a pas, même d'ailleurs, du tout. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, en fait, hein, pour une femme, quoi. Mais en tout cas, c'est aussi c'est une sorte de mise en abîme, hein, quand même, de l'inverse de ce qui se passe d'habitude, quoi.
Voilà. Sur le site du Lab. Vous écrivez « Le cinéma est une partie très visible de l'iceberg de l'égalité des chances. Son importance symbolique est donc puissante. » Je prends cette citation parce qu'en plus, elle s'applique très bien sur le jeu vidéo aussi. Hein, on l'a vu, il y a autant de joueuses que de joueurs. Donc finalement, la représentation des femmes dans ces médias-là, c'est la partie émergée, enfin voilà, de cette problématique sociétale de l'égalité des chances. C'est important aussi à ce niveau-là. Est-ce que il y a on a parlé de l'industrie qui se posait des questions pour inciter des réalisatrices, inciter pourquoi pas des créatrices de jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une réflexion qui se passe au niveau du contenu, au niveau de ce qui est produit comme image, de ce qui est produit comme scénario? Est-ce que là aussi il y a des réflexions qui sont en cours, il y a des évolutions on voit, hein, le test de Bechdel ne passe pas même pour les productions récentes. Est-ce que où se situent les réflexions à avoir? Est-ce qu'il faut avoir aussi des réflexions là-dessus. Caroline. Bon.
C'est comme je le disais, en fait, ça commence à justement être un sujet sur lequel les créateurs de jeux vidéo s'orientent de façon plus évidente maintenant. Du coup, par exemple, ce qui est intéressant, je vais prendre un autre exemple, c'est Assassin's Creed Odyssey. Il me semble qu'on peut choisir deux personnages différents sur ce jeu-là. La façon dont on choisit le personnage a aussi un impact sur le storytelling, donc l'histoire du jeu. Et apparemment, si on prend le personnage féminin, le storytelling a été adapté justement pour le personnage féminin. Mais en regardant les chiffres des joueurs, apparemment, le personnage masculin reste le personnage qui est sélectionné le plus, malgré le fait qu'on ait un storytelling un peu moins poussé. Et aussi en termes de marketing, quand on voit le marketing qui a été fait sur le jeu, on voit le personnage masculin et pas le personnage féminin de Cassandra. Et donc c'est assez intéressant de voir que malgré les réflexions qui se sont faites en interne, en amont, la réception du public reste assez en arrière par rapport aux problématiques qui se posent à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le genre de discussion qu'on a aujourd'hui est intéressant. Mais d'un autre sens, c'est intéressant surtout d'avoir ce genre de discours avec des hommes. Parce que quand j'en parle avec mes collègues masculins de ce genre de sujet, ils ne savent pas forcément quoi me dire, comment répondre, parce que ça ne leur correspond pas de façon directe, ça ne les atteint pas de façon directe. Donc la question, c'est comment amener le débat sur un pied d'égalité pour les hommes comme pour les femmes, pour travailler ensemble et amener une parité et une mixité
dans le cinéma.
C'est pas une question facile. Moi, ce que je crois, c'est que un cinéma, enfin, toute la production audiovisuelle, quand il y a un décalage entre la société et l'image qu'on en donne, le décalage, je trouve qu'il est pas sain. C'est évidemment le cas. Donc nous, on est quand même vraiment très axé place des femmes. On se rend compte quand on s'intéresse au sujet de la place des femmes, nous, dans nos ateliers du Lab, je crois qu'on n'a jamais fait un atelier, j'ai mon associé Guillaume qui vient d'arriver, je lui dis bonjour, on n'a jamais fait un atelier du Lab sans que finalement l'intersectionnalité s'invite. Et l'intersectionnalité, c'est en gros quand vous vous intéressez au sujet de la place des femmes, en fait, à un moment, vous allez vous intéresser aussi au sujet plus large de la diversité. Donc, c'est-à-dire des minorités ethniques, c'est-à-dire des minorités sexuelles, voilà. Donc, qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que qu'on voit à l'écran, que ce soit sur cinéma, que ce soit dans les séries, finalement, pas du tout ce qu'on voit dans la société, je trouve que c'est malsain et que c'est un peu mortifère. Alors après, il y a quand même, c'est aussi lié du coup à où est-ce qu'on projette la production. Donc je fais quand même une petite différence entre ce qui se passe dans le cinéma et ce qui se passe dans l'audiovisuel, dans les séries. Parce que, par exemple, dans les séries, en fonction des plateformes, vous avez des plateformes comme Netflix, comme Amazon Prime, qui, elles, sont des plateformes de niche et qui ont compris qu'en fait, elles ont même chiffré, hein, c'est-à-dire qu'elles ont chiffré que plus elles vont coller à une diversité et du coup à une représentation très pointue, en fait, de la diversité, et plus, finalement, elles vont être bankable. Évidemment, en prime time sur TF1, ou bon, même s'il y a des séries, honnêtement, il y a des séries, des soap opéras, etc., qui existent depuis des années et qui petit à petit ont inséré des personnages, enfin justement qui sont allés du côté d'une représentation de la diversité. Mais oui, moi j'ai tendance à dire. Alors c'est ça. Après, dans les ateliers aussi, ce qu'on a beaucoup entendu dire, c'est des filles scénaristes qui disaient, moi j'en peux plus. Hyper souvent, on m'envoie des scénars et on me dit, est-ce que tu peux le féminiser? Mais le scénar, il existe déjà. Et en fait, la fille dit, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, en vrai, un personnage féminin, il est riche parce qu'il est riche, mais qu'on me demande pas de lui mettre la petite touche pink à la fin, quoi. Ça, c'est quand même très énervant. Après, on commence quand même à voir. Enfin, moi, il y a quand même des éléments qui me donnent à espérer quand je vois. Enfin, je sais pas si vous avez regardé Fleabag, avec Phoebe Waller-Bridge. Il faut regarder Fleabag. Là, pour le coup, vous avez un personnage qui est féminin, qui est vraiment truculent et qui est dans. Enfin, voilà, là on est. En plus, il y a une diversité qui est, me semble-t-il, quand même assez, assez réjouissante à voir et à découvrir. Donc, il y a quand même lieu d'espérer, mais c'est vrai qu'on est encore hyper loin d'une représentation à l'image de la société dans laquelle on vit, quoi.
Eh ben merci beaucoup à toutes les deux. J'ai trouvé ça très intéressant. Je voulais juste terminer parce qu'il y avait un point qui était important aussi. Tu as parlé d'Assassin's Creed Odyssey, donc, qui a proposé un personnage féminin très complet et très intéressant à jouer. Et on peut, il n'y a pas de lien direct qui peut être fait, mais il y a quelques années auparavant, il y avait eu Assassin's Creed Unity, donc qui se passait à la Révolution française, qui était sortie, et la non-représentation et la non-possibilité d'incarner une femme avait été mise en avant, et Ubisoft avait eu à faire face à aussi une grande critique et médiatique et sur les réseaux sociaux de sa non-possibilité de pouvoir jouer une femme. Donc comme quoi aussi, les décideurs, les studios peuvent aussi réagir et proposer du contenu suite à une critique qui vient de l'extérieur, et c'est toujours important d'avoir ce genre de débat aujourd'hui pour faire évoluer petit à petit la situation.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ces échanges. On en apprend pas mal, je trouve. C'est l'heure de se quitter. Moi, je vous dis, j'espère, on va tout faire pour être là la semaine prochaine. J'en profite à la fin de cette émission, comme ça ne concerne que les gens qui vont au bout de l'émission. J'en profite quand même pour remercier tous les auditeurs qui ont fait part de leur inquiétude, de leur tristesse, de leur soutien aussi pendant que Silence on joue n'était pas diffusé. Ça nous a beaucoup touchés. C'est vrai que les forums, le forum de Silence on joue, sur les réseaux sociaux, par mail parfois, c'est aussi pour, ça nous aide aussi à tenir, et puis ça nous motive énormément pour être là, et surtout vous inquiétez pas, même si Jérémy Kletskin l'a dit dans sa chronique, oui, Silence on joue peut mourir un jour, mais en tout cas vous serez prévenus bien à l'avance si ça arrive. Vous inquiétez surtout pas, c'est pas du tout du tout d'actualité. C'est de toute façon, on trouvera toujours un moyen pour être là. Et on sera en tout cas la semaine prochaine. Et puis en 2020, on sera là. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine à la Réal quand même. C'était Kevin Pogam. Ciao.